Bonjour, merci d'être au rendez-vous dans ce nouveau numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous allons voyager dans les philosophies de l'humanité grâce à notre invité Roger Paul Droit. Oui, les philosophies sur différents continents, il n'y a pas en effet que l'héritage grec dans la vie, dans le domaine de la réflexion sur notre être et notre destinée, loin s'en faut. Heidegger avait donc tort, semble-t-il, quand il écrivait que la philosophie est grecque dans son être même. Dans son livre « Un voyage dans les philosophies du monde », Roger Paul Droit écrit ceci. « Pourquoi irait-on explorer des contrées qui n'existent pas ? Si la philosophie ne se rencontrait qu'en Occident et nulle part ailleurs, se préoccuper des philosophies du monde serait un rêve sans objet, un mirage, une chimère, dénué de sens. Les philosophes n'habiteraient qu'une région, ne parleraient que les langues de l'Europe. Les chercher autre part serait inutile. J'espère montrer combien cela est faux. » Ainsi, dans ce numéro d'idées, nous allons partir pour l'Asie notamment et nous demander ce qu'est au fond la philosophie, une manière de sagesse ou quel est son lien avec la religion. Idée, le magazine des pensées du monde, donc, à retrouver également sur le site de la radio, votre plateforme préférée, ou bien encore sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. Vous êtes notre professeur de philosophie depuis le début de cette émission, il y a une dizaine d'années maintenant. Vous êtes philosophe, écrivain, chroniqueur, auteur de nombreux livres. Nous avons parlé de quelques-uns d'entre eux dans ce magazine. Et si Platon revenait, par exemple, en 2018, ou bien encore Monsieur, je ne vous aime point, Voltaire et Rousseau, une amitié impossible, en 2019. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de ce voyage dans les philosophies du monde, qui est d'abord une réflexion sur la philosophie en tant que telle. Qu'est-ce que la philosophie ?
Eh bien, s'il fallait répondre en une phrase, parce que c'est évidemment un défi terrible que de définir un si vaste domaine en peu de mots, je dirais que le propre, à mes yeux, mais je ne suis pas le seul à le penser, de la philosophie, c'est à la fois une série de questions communes, la nature du temps, de l'espace, de la structure de la réalité, l'identité des individus, les règles du politique, l'amour, la liberté, le pouvoir, l'État, enfin ce qui figure, après tout, dans la liste à peu près standard des notions, du programme, des classes de philosophie dans la République française et dans bien d'autres pays. Mais je crois qu'il faut ajouter à cela que la philosophie n'est pas simplement un style de pensée, une discipline normée, une suite de bibliothèques, de départements universitaires. Elle est, à mes yeux, d'abord cette attitude qui fait que la raison humaine s'interroge sur ce qu'elle pense et sur les outils qu'elle possède pour réfléchir. Autrement dit, l'essentiel du mouvement de la philosophie, c'est un retour de la pensée sur elle-même. Ça n'est pas avoir des idées, après tout le monde en a, et ça n'est pas non plus savoir défendre ses convictions contre des objections, à peu près tout le monde sait le faire. C'est se demander qu'est-ce que nous pensons et pourquoi, et avec quels outils nous le pensons. Or, et ça définit effectivement le mouvement de la philosophie chez les Grecs, avec son développement spécifique. Mais il m'a tout à fait semblé évident, avec le passage du temps, des ans et des lectures, que ce même mouvement de pensée, on le retrouve en Asie, que ce soit en Inde ou en Chine, on le retrouve dans la tradition bouddhiste, depuis l'Inde jusqu'au Tibet en passant par le Japon, on le retrouve également dans la tradition juive, chez les penseurs arabo-musulmans, et qu'il faut à ce moment-là redéfinir autrement, d'une certaine manière, ce qu'on appelle philosophie, parce que, vous le rappeliez au début de cette émission, on nous a répété, ce sont nos braves maîtres et nos professeurs, qu'il n'y avait de philosophie que grecque ou européenne ou occidentale, et que c'était quelque chose de très particulier qui n'avait pas d'équivalent ailleurs, et je l'ai cru moi-même, et j'étais normalien, agrégé, enfin jeune professeur, je me souviens, et je pensais cela jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était faux, qu'il y avait par exemple en sanskrit, en Inde, d'immenses bibliothèques de traités de logique qui n'ont rien à envier à la logique d'Aristote, de disputes dialectiques qui n'ont rien à envier aux controverses des scolastiques médiévaux, et qu'il y avait des spéculations métaphysiques, des théories du langage, du pouvoir, de l'être, dans des tas d'autres traditions. Et finalement, j'ai fini aussi par m'apercevoir, ça a été une autre série de travaux et de recherches que j'ai poursuivi au CNRS pendant de nombreuses années, que ce pli qui ferme la philosophie, c'est un pli récent.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. C'est un mouvement qui remonte au 19e siècle, non ?
C'est cela. Ça commence au 19e, ça se durcit au 20e.
Et vous pointez trois philosophes en particulier. J'ai cité tout à l'heure Heidegger, grâce à vous, parce que j'ai repris une citation qui est dans votre livre. Heidegger, Husserl et Hegel.
C'est les trois H.
Les trois H.
Les trois H, c'est Hegel qui commence à réinventer la Grèce contre l'enthousiasme de ses contemporains romantiques pour la découverte de l'Inde. Je crois qu'il comprend très bien qu'il y a un danger, parce qu'on déclare aussitôt l'Inde terre philosophique. On a oublié ça, cet enthousiasme, cet engouement qui envahit l'Europe des romantiques, de Goethe jusqu'à Schopenhauer, en passant par les frères Schlegel. Il y a des chaires de sanskrit qui s'ouvrent partout en Europe, des revues, et l'Inde devient, entre, disons, les années 1790 et 1820-30, une sorte d'outre-Grèce, de foyer primitif originaire de la pensée philosophique. Et Hegel, en quelque sorte, réinstalle les Grecs contre cela. Alors c'est un premier jalon, parce que la discussion ou les découvertes se poursuivent tout au long du 19e siècle. Mais c'est après la Première Guerre mondiale, c'est au moment où l'Europe véritablement est en train de changer de mentalité, que Husserl, d'une part, dit nous ne nous indianiserons jamais. Il y a une sorte de privilège absolu de la pensée grecque occidentale, et Heidegger qui déclare que philosophie indienne, c'est comme de l'acier en bois. Donc une contradiction dans les termes, qui professe qu'on ne peut faire de philosophie qu'en grec et en allemand. Et si l'on compare cela, qui est très apparemment net et catégorique, si on compare cela avec ce qu'a été l'histoire de l'ouverture de la pensée philosophique depuis les Grecs, je veux insister sur ce point, jusque au milieu du siècle des Lumières, alors on s'apercevra que c'est très récent, à l'échelle de la macro-histoire, évidemment. Mais j'ai beaucoup étudié cette question, en remontant, si je puis dire, le cours du temps, puisque ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment ça s'était fermé au début du 19e, mais ensuite, vous vous apercevez, par exemple, au milieu du siècle des Lumières, il y a une grande histoire de la philosophie, qui est celle de Jacob Brucker, 7 volumes, grosse chose, que lise Diderot, qui la pille allègrement dans l'encyclopédie, que lise également Goethe, Kant, Hegel, Schopenhauer, etc. Enfin bref, c'est la référence. Or, 1742, la première publication. Qu'est-ce qu'on découvre ? Cette magistrale histoire s'ouvre sur 350 pages consacrées aux philosophies indiennes, chinoises, persanes. Et il ne paraît absolument pas incongru à qui que ce soit à cette époque qu'il y ait de la philosophie ailleurs que chez les Grecs. De même, alors si on remonte jusqu'au bout, et je ne veux pas faire trop long sur ce point, mais il est important, je me suis aperçu, en travaillant des années sur ces questions, que chez les Grecs eux-mêmes, cette division n'existe pas. Quand les historiens qui accompagnent Alexandre, dont certains sont des élèves, des philosophes, Onésicrite, par exemple, et d'autres, quand ils découvrent ce qu'ils appellent des ascètes nus en Inde, des gymnosophistes. Il les appelle philosophes. Quand Hérodote parle des prêtres égyptiens, il les appelle philosophes. C'est-à-dire tous les gens qui sont des gens à la fois de savoir, de réflexion, éventuellement sagesse, portent pour les Grecs ce nom-là. Et alors on peut dire les Grecs se trompent, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils pensent, mais c'est un autre débat. Ils ignorent en tout cas, ils ne manipulent pas comme nous le faisons nous, une division entre philosophes d'un côté, sages de l'autre, tous les gens qui, en quelque sorte, s'occupent de réflexion, de pensée et de conversion de leur existence, portent ce nom de philosophe aux yeux des Grecs eux-mêmes.
Alors, votre livre est une invitation au voyage. D'ailleurs, vous écrivez que si les lecteurs veulent aller plus loin, il faut qu'ils aillent se renseigner, voyager, etc., etc. C'est une invitation au voyage. Ce n'est pas un livre exhaustif. Nous n'allons pas l'être non plus. Il faut le préciser. Vous invitez. Oui. Vous attisez la curiosité.
Oui, c'est un livre qui est très modeste, si vous voulez, dans ses objectifs, puisque ce qu'il veut, c'est inciter le lecteur à découvrir les bases différentes de chaque domaine. Quels sont les axes principaux de chacune de ces pensées? Qu'est-ce qui, finalement, les oriente, les singularise? Et après, il y a des conseils de lecture, il y a des glossaires, il y a des chronologies, un peu pour cadrer les choses, mais j'ai voulu que ça soit simplement utile, une première information découverte, parce que souvent on connaît les noms, mais on ne sait pas les contenus.
Om Rigveda Paramatma Swarupine Namaha Om Agnimile Purohitam Yajnasya Deva Mritvijam Hotaram Ratnadadabam Agnipurve Bihi
Alors, Roger Paul Roy, vous écrivez que c'est dans la pensée que l'on se déplace de manière radicale. J'aime bien la phrase et on va essayer de le faire dans le cours de cette émission. Si nous parlions d'abord de l'Inde, la sagesse en Inde, héritée des Védas.
Oui. Alors, les Védas, ce n'est pas exactement un texte philosophique. Ce n'est pas non plus exactement un texte révélé comme la Torah hébraïque ou le Coran musulman.
On est à 1500
avant Jésus-Christ,
avant notre ère. Oui.
Peut-être avant, mais c'est surtout un texte qui est censé n'avoir jamais été rédigé par une main ou un esprit humain. Il a été entendu par les premiers sages. C'est la shruti, c'est-à-dire l'audition. C'est d'abord une oralité, si vous voulez. C'est une affaire sonore. Il y a aussi des chants dans les Védas au double sens poétique et musical. Et c'est en quelque sorte, pour la pensée indienne, le foyer primitif d'où tout est sorti, si vous voulez. C'est-à-dire que par la suite, quand il y aura de véritables systèmes philosophiques en Inde, avec des thèses, des commentaires, des déductions, des objections, des rapports, même conflictuels, enfin, ou en tout cas dialectiques, de discussions entre les écoles, eh bien, chacun dira ce que j'affirmais déjà dans les Védas. Il n'y a pas cette idée, si vous voulez, ça c'est un axe aussi très différent d'une autre, il n'y a pas l'idée d'une innovation qui, j'ai envie de dire que, regardez comment ça marche dans notre Occident, tout philosophe, même s'il ne fait que reprendre ou repeindre de vieilles idées, va expliquer que les siennes sont très neuves.
Certainement.
Voilà, que ce qu'il dit rompt avec le passé. Au contraire, en Inde, et plus généralement en Asie, lorsque on dit quelque chose, même si c'est très neuf, même si c'est en rupture conceptuellement ou théoriquement avec le passé, eh bien, on explique que c'était déjà là, qu'on n'a rien inventé, qu'on ne dit rien de nouveau, etc. On s'inscrit de façon délibérée dans une tradition qui est supposée être immémoriale. Donc, c'est un rapport au temps.
C'est ça, ça pose la question du temps.
Absolument. Et j'essaye, si vous voulez, d'entrer dans chacun de ces domaines, un peu par une anecdote, par un... En Inde, il me semble, pour qui il y a été plusieurs fois, que on est frappé très vite par le fait que le temps ne fonctionne pas comme nous, comme le nôtre, en tout cas. Voilà, il y a toutes sortes de choses où l'idée d'une précision des horaires, d'une contrainte des programmes, des choses à tenir, ça se fait, mais avec des surprises, des lenteurs, des accélérations, des arrêts. Et surtout, le télescopage des temps est beaucoup plus fort que dans les villes européennes ou occidentales. Vous pouvez, à l'arrêt de bus, voir cohabiter un asset nu qui est semblable, couvert de cendres, à ceux qui existaient il y a 2500 ans ou 3000 ans, avec un cadre qui va à son travail d'informatique avec son attaché case. Enfin, et ça, c'est lié, me semble-t-il, à quelque chose qui est beaucoup moins anecdotique que ça, beaucoup plus profond, qui est le fait que le rapport aux distances temporelles est, depuis le début de la culture indienne, absolument autrement organisé qu'en Occident.
Avec la vie considérée comme un cycle.
La vie considérée comme un cycle, mais d'abord, si vous voulez, d'abord des distances temporelles qui sont absolument considérables. Parler de milliards et de milliards d'années, c'est absolument courant dans les traditions indiennes les plus anciennes, alors que en Occident, la création du monde dans le monde biblique, c'est 5000 ans. Buffon dit encore au XVIIIe siècle que la Terre a 9000 et quelques années. Et il n'y a pas du tout les mêmes échelles temporelles. Et puis, il n'y a évidemment pas la même échelle temporelle de salut. C'est Georges Dumézil, le grand spécialiste de la mythologie comparée, ouais, qui a fait un très joli article où il comparait la distance parcourue par un chrétien pour faire son salut avec un Indien. Le chrétien, c'est un sprint, si je puis dire. Vous voyez, il a théoriquement une vie pour perdre ou gagner l'éternité. Pascal a évidemment largement médité là-dessus. Alors qu'en Inde, on est délivré qu'au bout de milliers de vies qui se réincarnent constamment. Il y a une anecdote que cite Dumézil et qui est célèbre. C'est un ascète qui entre en méditation et puis, dans cette histoire évidemment légendaire, un dieu passe par là et l'ascète lui demande « Mais au bout de combien de vies vais-je finalement être délivré ?» Et l'autre lui répond, bah, tu vois cet arbre sous lequel tu es. Alors, c'est évidemment, il faut imaginer que c'est un ficus benjamini, comme il y en a en Inde, avec des milliers de feuilles. Il lui dit, bah, tu seras délivré au bout d'autant d'existence et de renaissance qu'il y a de feuilles sur cet arbre. Et l'ascète danse de joie. Pas du tout, parce que il va endurer des milliers de vies de plus. Mais il danse de joie parce que c'est un nombre fini. Donc il est sûr et certain
qu'il y aura une fin.
Qu'il y aura une fin.
Du cycle.
Parce que ce qu'il ne faut pas du tout oublier, là aussi c'est une différence tout à fait singulière entre conception indienne et conception occidentale ou européenne, c'est que le salut ne consiste pas en une vie éternelle comme pour les chrétiens, mais en une extinction véritable. Il s'agit de cesser de vivre. La vie éternelle, c'est une sorte d'horreur absolue, si vous voulez. Le Bouddha, quand il naît, dit « Ceci est ma dernière naissance ». Être délivré, c'est en avoir fini avec le cycle jugé, non pas forcément infernal, mais en tout cas douloureux, des naissances et des réincarnations. Enfin, ne plus renaître, ça, c'est le terme ultime.
idée.
Alors vous parlez de la notion de conscience, la différence qu'il y a dans le brahmanisme entre la conscience et la pensée, par exemple. Et vous soulignez évidemment ce qu'a apporté le bouddhisme. Vous parlez de défi bouddhiste qui s'est heurté au brahmanisme. Un choc et un syncrétisme en quelque sorte.
Tout à fait. Je vais essayer, si vous voulez, de répondre les deux questions parce qu'elles sont liées. Il y a d'abord un point tout à fait frappant et curieux pour nous, c'est cette différence entre conscience et pensée. Parce que depuis toute la tradition occidentale, depuis Platon et Socrate et encore plus Descartes, la pensée pour nous s'identifie à la conscience. Les deux sont quasiment synonymes. Nous n'imaginons pas que nous pourrions être conscients sans penser.
Bon. Je pense donc je suis.
Je pense donc je suis, c'est la matrice pour Descartes de la vérité et de la philosophie elle-même. Alors qu'il en va tout à fait autrement dans les spéculations indiennes, qui sont parfois d'une très grande virtuosité, d'une très grande subtilité, mais c'est l'idée que la pensée est d'une certaine manière ce qui nous sépare de la conscience ultime, profonde, de l'absolu. Et que nous devons, au lieu de... Vous voyez, là, on entre dans quelque chose qui est, à mon avis, profondément philosophique et en même temps orienté tout à fait à l'envers, si j'ose dire, de nos habitudes philosophiques. Parce que il va s'agir, d'une certaine manière, d'éteindre la pensée pour atteindre la conscience. C'est-à-dire que pour arriver dans la pensée de l'absolu, et c'est ça la conscience, que un grand auteur comme Shankara, vous allez voir que c'est tellement contre-intuitif pour nous, il dit la conscience, eh bien c'est très simple, la meilleure approche, c'est le sommeil profond sans rêve. Vous voyez, quand vous dormez profondément et sans rêve, là, vous commencez à vous approcher un peu de ce qu'on appelle conscience. Ah, autrement dit, vous ne pensez plus du tout. Et il va s'agir, et c'est très très déconcertant, mais c'est ce genre de dépaysement qui me paraît intéressant et fécond intellectuellement, comme exercice même de découverte et de pensée, il va s'agir véritablement d'annuler toutes les différences. Nous avons des différences de sensations, le rouge, le bleu, le vert, le chaud et le froid. Nous avons des catégories logiques, nous différencions entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. En fait, dans l'absolu, rien de tout cela n'est différencié, du point de vue indien. Donc, rejoindre cette indifférenciation ultime, cela suppose de défaire toutes les catégories, toutes les oppositions que nous manions habituellement. Et il va s'agir, et ce sera aussi le cas chez les bouddhistes ensuite, il va s'agir d'une certaine manière de se servir de la pensée pour défaire la pensée. Vous voyez, il va s'agir de prendre des outils logiques, mais d'une certaine manière, pas pour accroître nos connaissances, pas pour faire un pas au-delà, mais pour faire un pas, si j'ose dire, en deçà, et au contraire, dissoudre tous ces faux semblants qui sont, d'une certaine manière, des illusions. Voilà, nous croyons que c'est une réalité, ce sont des illusions, la seule réalité ultime, c'est la conscience de l'Atman Brahman, c'est-à-dire du soi absolu. Ce soi absolu, j'en viens à votre deuxième...
Oui, sur l'influence donc des bouddhistes, hein, ce que vous appelez le défi bouddhiste.
Alors, le défi bouddhiste...
Face au brahmanisme.
Voilà, parce qu'en général, on croit que tout cela est un peu, non pas semblable, mais en continuité. Et on oublie, Michel Hulin avait fait un très beau livre sur le développement de la pensée indienne à partir de la querelle entre brahmanes et bouddhistes, on oublie que le bouddhisme naît d'abord comme une force de contestation.
Il naît en Inde, d'ailleurs.
Il naît en Inde, bien sûr. Le Bouddha est censé avoir vécu vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est grosso modo contemporain de Socrate, si vous voulez, à quelques décennies près. Et il n'a pas eu de révélation extra-humaine, si j'ose dire. Il se présente, en tout cas, comme un homme qui a voulu finalement trouver la clé de la, pas seulement de la sérénité, mais de la sortie du malaise humain. Voilà. On traduit le terme sanskrit dukkha souvent par souffrance. Et ça a été un des grands contresens, parce qu'on s'est imaginé que le bouddhisme était une sorte de pessimisme, vous voyez, de dolorisme, la vie est une souffrance. C'est manifestement faux à des tas de moments où on ne souffre pas, où on est même par moments heureux. Etc. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie, elle est mal ajustée. Il faut faire là juste un peu de linguistique aussi, parce que les mots disent des choses tout à fait intéressantes. Le terme qu'on traduit par souffrance, c'est dukkha. Et il y a deux parties dans ce mot. Ka, c'est le trou qu'il y a au milieu d'une roue. Vous voyez, ce petit trou qui permet au moyeu d'entrer à la roue de tourner rond. Et duk, c'est un suffixe que vous avez en grec aussi, dus, que nous avons en français dans dysfonctionnement, disharmonie. C'est ce qui, finalement, coince. Et le dukkha, cette souffrance, c'est pas la souffrance, c'est le fait que ça coince, ça grince, ça tourne pas rond, c'est un mal-être plutôt. Et le Bouddha propose finalement une voie pour sortir de ce malaise. Alors là, on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à certaines choses que l'on connaît chez les Grecs ou les Romains, c'est-à-dire des écoles de thérapeutique philosophique. Pas du tout une philosophie seulement théoricienne, mais qui a pour but de changer d'existence. Je dirais comme Épicure, quand il dit « calmer la tempête de l'âme », c'est quelque chose qui a un peu des échos. Mais les bouddhistes vont entrer ensuite en rébellion, si j'ose dire, ou en contestation envers l'orthodoxie indienne des brahmanes. Et le moteur des élaborations philosophiques des deux côtés, c'est ce clivage. Qu'est-ce que, en gros, les bouddhistes reprochent à la tradition indienne? Eh bien, c'est d'être encore trop confiante dans l'existence des choses. Cette fameuse conscience ultime, cet Atman Brahman, c'est encore pour les bouddhistes une espèce de croyance qu'il faut contester, qu'il faut dissoudre à nouveau. Voilà. Et là, ce sont des joutes intellectuelles et spirituelles, évidemment, très sophistiquées, très argumentées, qui vont du côté des brahmanes orthodoxes générer leur système de pensée, les pousser, si vous voulez, à préciser en quoi ils croient et pourquoi, et donc de façon à argumenter intellectuellement, et du côté des bouddhistes, à affiner de plus en plus des traités à la fois de logique et de vie spirituelle qui sont très importants et très, surtout très élaborés, même philosophiquement, très intéressants.
Vous écoutez RFI et dans ce numéro d'idées, nous effectuons, grâce à Roger Paul Droit, un voyage dans les philosophies du monde. Il s'agit d'une évocation. Nous venons de parler de l'Inde, Roger Paul Droit, et vous nous avez donné quelques repères que vous développez dans le livre. Il faut que nos auditeurs se documentent, aillent plus loin en lisant votre livre, en se documentant sur Internet notamment. Et si nous parlions de la Chine maintenant, pour continuer ce voyage, Chine où le bouddhisme a eu son influence, évidemment, comme au Japon ou au Tibet, chez les Tibétains, par exemple. Si nous parlons de la Chine et de Confucius, Roger Paul Droit, qui est le célèbre Confucius.
Alors, je pense que la manière la plus simple d'y entrer, de façon, on veut faire comme on a fait en Inde, en entrant par la porte, si j'ose dire, du temps.
Et là, vous dites que le plus simple, c'est de regarder le ciel.
Voilà. C'est d'entrer par la porte de l'espace. Il y a à Pékin, et moi je me souviens, je le raconte dans le livre, de ma sidération à éprouver l'étrangeté de ce lieu, un temple du ciel. Et le temple du ciel, il y a à côté un temple des récoltes, qui est une forme d'immeuble, pagode de la Chine médiévale, tout à fait classique, si j'ose dire, ou habituelle. Mm-hmm. Mais le temple du ciel, c'est quoi ? Rien. Rien, en tout cas, de construit. C'est une sorte d'esplanade d'une centaine de mètres, pavée, ouverte, circulaire, et il n'y a rien. Parce que on y éprouve l'espace même du ciel. Et alors, qu'est-ce que c'est le ciel, qui était ensuite une des grandes catégorie de Confucius, une des grandes notions aussi du taoïsme? Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être, puisqu'il s'agit de dire le sage devient comme le ciel, c'est très compliqué à définir de façon fixe. Parce que justement, le ciel, il est mobile.
Vous écrivez, Roger Paul Droit, que le sage suit le ciel qui est en lui et qui constitue le fond de notre nature.
C'est cela. Nous sommes, du point de vue de Confucius, semblables au ciel dans notre propre esprit, à l'intérieur de nous. Et cela veut dire quoi ? Le ciel, il est à la fois toujours semblable et toujours mobile. Il suit les saisons, le cycle des jours et des nuits, le passage des nuages, etc. Et ces modifications incessantes sont en même temps à l'intérieur d'une unité fondamentale et en même temps, d'une certaine manière, à peu près imprévisible. On peut prévoir évidemment qu'il fera froid en hiver et chaud en été, ça on voit bien, mais pas d'un moment à l'autre. Et Confucius prétend toujours ne pas avoir de doctrine, mais avoir un avis au moment où on lui pose une question en fonction de l'interlocuteur. Vous voyez, il y a cette idée finalement bien plus que celle d'une vérité, comme chez Platon par exemple, ou qu'il faudrait aller contempler dans le ciel des idées qui seraient immuables, éternelles. Il y a quelque chose qui est immuable et éternel, mais qui est en même temps absolument mobile et qu'il faut saisir à chaque instant sous un angle particulier, éventuellement fluctuant. Donc c'est une idée de la mobilité spatiale permanente, régulée, mais non fixe.
Ah, on dit qu'il y a un certain conservatisme chez Confucius. J'emploie un mot contemporain, à dessein.
Oui, bien sûr. Disons qu'en Chine, en schématisant beaucoup, mais ce livre n'est fait que de simplifications volontaires qui se veulent utiles pour expliquer, il y a deux grandes doctrines qui ont traversé jusqu'à nos jours l'histoire de la pensée chinoise. C'est le confucianisme et le taoïsme.
En réaction, en quelque sorte, au confucianisme.
Oui, elles ont des
une remise
points,
en question.
Elles ont certains points communs. Il ne faut pas faire une opposition blanc et noir trop tranchée, mais elles ont quand même des inspirations à la fois sociales, éthiques et philosophiques très différentes. Le confucianisme, ou en tout cas ce qu'on a construit autour de la pensée de Confucius, c'est un conservatisme, si l'on veut, mais c'est surtout une pensée de l'ordre. C'est chacun est à sa place dans la société Et le bon traitement d'une personne, c'est de lui parler et aussi de lui demander ce qui correspond à son statut social. Pas simplement chine d'en haut et chine d'en bas, si j'ose dire, mais on parle à une sœur ou une fille d'une certaine manière, à un père d'une autre manière. Vous voyez, il y a des relations de parenté, les relations de pouvoir, les relations sociales.
Chacun à sa place.
Chacun à sa place et chacun avec des devoirs qui lui sont propres et qu'il faut respecter. De la même manière, si vous voulez, il y a aussi une pensée très importante dans le confucianisme du rite. Le rite, c'est pas simplement un formalisme religieux, c'est ce qui, d'une certaine manière, entretient la marche du ciel, la marche du monde et la marche des sociétés. Donc il y a une pensée du mobile et en même temps des équilibres, alors que chez les taoïstes, c'est plus rebelle, si j'ose dire. Il y a une force de contestation.
Lao Tzu est un rebelle.
Lao Tzu, absolument, oui. Alors Lao Tzu, l'auteur de ce qui s'appelait autrefois le Tao Te Ching, et qui doit s'appeler aujourd'hui Tao Te Ching ou quelque chose comme ça, est un penseur probablement légendaire, mais on ne sait pas s'il a existé ou non, mais qui a évidemment des légendes autour de sa vie, mais qui est surtout celui qui dit, celui qui sait se tait. Là aussi, il y a une différence considérable avec nos habitudes philosophique. Savoir, dans le logos grec, c'est parler. La parole et la pensée doivent, d'une certaine manière, se dire. Là, celui qui sait se tait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impuissance des termes du langage à dire la réalité ultime. Parce qu'elle est toujours, dans cette pensée taoïste, cette réalité, elle est toujours fluente. Elle est toujours en train, on est assez proche alors d'Héraclite, par exemple. On n'est pas très loin de ce que Nietzsche retrouve du mouvement permanent de la réalité, avec cette idée qu'avec nos mots qui sont fixes, nos idées qui sont un peu rigides, on ne rend pas compte du flux permanent des choses. Il y a une pensée chez les taoïstes, par exemple, du vent, de la transformation, de l'absence aussi de séparation raide et fixe entre la pensée et puis la réalité. Il y a des anecdotes, si vous voulez, du musicien taoïste qui, en jouant une mélodie d'hiver, fait geler le lac. Ou bien, il y a une très belle apologue chez Chuang Tzu qui est un génie absolu de du conte philosophique, enfin de l'histoire. Et il y a cette histoire que, pour ma part, j'adore absolument parce qu'elle dit, je crois, beaucoup en très peu. C'est un seigneur un peu arrogant qui voit un sage taoïste et qui lui dit « J'ai perdu au fond du ravin un collier de perles. Il faut absolument le rattraper. » Alors le sage saute dans la rivière au péril de sa vie, il fait un grand plongeon et il ramène le collier de perles. Et l'autre est sidéré parce qu'il n'y a jamais eu de collier de perles. Ça marche sur la confiance et sur la volonté.
Ceux qui pensent le monde.
Roger Paul Droit, dans ce livre très riche, très ambitieux, Voyage dans les philosophies du monde, vous nous parlez aussi de la pensée juive, de la Torah, et de la création de cette pensée, en réaction d'ailleurs à la philosophie qui est devenue philosophie, de la rencontre de la philosophie juive avec les philosophes arabes. Vous nous parlez également des philosophes arabo-musulmans. Le domaine est tellement vaste que l'on ne peut pas embrasser l'ensemble. Et pour terminer, je voudrais que nous parlions un instant de l'Afrique. Nos auditeurs fidèles, très nombreux, doivent se demander en ce moment où est l'Afrique dans ce voyage dans les philosophies du monde. Vous l'évoquez dans ce livre. Y a-t-il une philosophie africaine ? Oui, d'évidence, mais elle est difficile à cerner.
Oui, il y a eu beaucoup à l'époque contemporaine de discussions autour des travaux notamment de Temple sur la philosophie bantoue. Paulin Houtondji, philosophe du Bénin, a attaqué cette idée que l'on pourrait ou devrait chercher dans les langues d'Afrique des systèmes de pensée. Je crois que deux choses sont simplement à souligner. Qu'il y ait aujourd'hui de remarquables et importants philosophes en Afrique, c'est pour moi une évidence totale. Je l'ai découvert d'une façon qui m'avait profondément frappé. En 1995, j'étais à l'époque conseiller pour la philosophie du directeur de l'UNESCO, qui était Federico Mayor, et je suis resté 6 ans, de 93 à 19, à organiser pour l'UNESCO des rencontres philosophiques dans différentes régions du monde. Et en 95, j'avais réuni avec l'aide de Jean-Godefroy Bidima,
qui est l'auteur d'ailleurs d'un que-sais-je publié en 2003 qui s'intitule « La philosophie négro-africaine ».
Absolument, tout à fait excellent que-sais-je. Et puis de mon très ancien ami Souleymane Bachir Diagne,
qui lui a écrit la réflexion sur la philosophie en Afrique aux éditions Présence africaine en 2013.
Voilà, et qui sont deux grands philosophes et connaisseurs aussi des traditions et des pensées d'Afrique. Et nous avions organisé ce colloque anglophone et francophone avec une soixantaine de philosophes. J'étais frappé de la qualité, de l'intensité, de la force de leurs interventions, des débats, des articles, de leurs connaissances. Bon. Mais ce sont des contemporains. Ce sont des lecteurs des œuvres philosophiques. Est-ce qu'il y a en Afrique des bibliothèques philosophiques comme on peut en trouver au Tibet dans les monastères bouddhistes, ou bien au Japon, ou encore en Chine, en Inde et en arabe et en hébreu, vous avez des bibliothèques entières, des milliers et des milliers d'œuvres écrites. Là, je crois qu'en Afrique, il y a bien évidemment tous les manuscrits de Tombouctou, mais qui appartiennent peu ou prou, et plutôt beaucoup, au domaine de la philosophie arabo-musulmane en terre africaine, même s'il y a probablement bien des commentaires et des singularités qui restent à découvrir. Dans l'oralité des cultures africaines, et ça, Souleymane Bachir Diagne l'a bien montré, on peut évidemment, légitimement, penser qu'il y a des discussions autour des notions, qu'il y a des disputes philosophiques, des controverses, et donc une élaboration d'écoles intellectuelles tout à fait diverses et importantes, mais nous n'en avons pratiquement pas la trace. Donc, si vous voulez, il y a l'hypothèse de leur existence, il y a les travaux de recherche qui commencent à se multiplier pour leur reconstitution. Mais la situation, en tout cas de mon point de vue, peut-être ai-je tort, me paraît fort différente en raison de cette oralité principale des autres types de cultures où on a des milliers et des milliers d'œuvres écrites, les unes encore pas traduites, certaines déjà bien étudiées, éditées, etc.
Alors ce qui est notable aussi, et ça sera sans doute ma dernière question de ce numéro d'idées, Roger Paul-Roy, ce qui est très important à noter, c'est l'importance de la langue, des langues et des échanges de langues. La philosophie arabo-musulmane s'est nourrie de la philosophie grecque, le latin a joué un rôle également. L'échange des langues a permis aussi de créer la pensée, les pensées.
Voilà, je crois qu'il faut distinguer clairement les cas de figure qui combinent deux éléments. Un premier élément, ce sont les langues elles-mêmes qui sont parentes ou qui ne le sont pas. Le sanskrit est, par exemple, absolument proche du grec. C'est une langue indo-européenne. Asti, il est, se dit en sanskrit, esti en grec. Et vous avez une parenté tout à fait des langues cousines, si vous voulez. Alors que l'hébreu ou l'arabe ne sont pas du même groupe de langues, a fortiori oui. Le chinois. Donc il y a des univers linguistiques. Et puis l'autre point, c'est ceux qui ont connu et commenté ou lu les textes grecs ou pas. Vous voyez, et là, il y a des choses qui sont des cas de figure très simples, mais très différents. Par exemple, entre les Grecs et les Chinois, il n'y a jamais eu, jusqu'à l'époque récente ou contemporaine, il n'y a jamais eu de relation, et il y a des langues absolument différentes. En revanche, entre les Grecs et puis le domaine hébreu ou arabe, il y a des langues qui sont différentes, mais il y a une filiation historique qui s'est mise en place, puisque, d'une part, et essentiellement, si vous voulez, ça a été le grand mouvement de traduction en arabe des textes grecs. Il y a eu des centaines et des centaines de textes traduits par les Abbassides et les Omeyyades, et qui ont abouti, finalement, à la possibilité d'une culture philosophique en arabe, culture musulmane, mais en lien avec la tradition philosophique grecque, principalement celle d'Aristote, mais aussi celle de Platon, de Plotin, des néoplatoniciens, qui font l'objet de commentaires aussi bien chez les musulmans que chez les juifs. Maïmonide, autre grand penseur, on a pu dire de lui qu'il pensait en grec, qu'il priait en hébreu et qu'il écrivait en arabe.
Merci Roger Paul-Droit. Votre voyage dans les philosophies du monde est absolument passionnant. Il faut le lire, il faut se documenter, aller chercher sur les sites internet rigoureux des informations. Il faut voyager aussi dans la mesure du possible. Bref, il faut s'ouvrir au vent du monde. En quelque sorte, c'est aussi votre démarche. Hein.
Absolument, je crois qu'il faut véritablement aller découvrir des idées et des systèmes de pensée qui ne sont pas du tout irrationnels ou magiques ou quoi que ce soit, mais qui usent de la raison selon d'autres figures que les nôtres. Et puis, il faut ouvrir notre horizon de pensée, parce que je crois qu'il y a là des découvertes fondamentales à faire.
Merci Roger Paul-Droit. Votre livre s'intitule « Un voyage dans les philosophies du monde ». Il est publié aux éditions Albin Michel. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, notre adresse électronique.
Idée au pluriel, @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.
RFI.